RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est en direct de 9h à midi. Vous réagissez, vous débattez avec les grandes gueules au 32-16. Aujourd'hui, nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et Midi Guézard, chef d'entreprise, garagiste, restaurateur dans les Hauts-de-Seine. Mais croyez-moi, il ne mêle pas les deux. Vous pouvez aller dîner ou grignoter tranquillement.
Dans le garage des Hauts-de-Seine.
Le midi sur rooftop.
Le problème, c'est que les frites, il les fait à l'huile de vidange, quoi.
Arrête, c'est très bon chez lui. Franchement, on a été hyper bien reçu. Je te remercie encore fin juin. C'est très, très bon et le personnel est exceptionnel.
Nous sommes avec Didier Giraud. Il est agriculteur en Saône-et-Loire. La suite des réjouissances dans les GG. Tout à l'heure, à midi moins 25, le face au GG avec Louis Boyard, député NUPES du Val-de-Marne, notre ancienne grande gueule devenue député. Alors, c'est vrai qu'avec Louis Boyard, il y a pas mal de choses à voir, le droit de vote des étrangers, la NUPES qui ne cesse de dénoncer l'acharnement contre l'imam Iqiyoussen, on a les rodéos urbains aussi aujourd'hui, puis l'attitude, la NUPES d'une manière plus générale, aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale. Je sais qu'on a Mehdi et Didier qui sont remontés comme des coucous. Louis Boyard tout à l'heure avec nous à midi moins 25. Le GG 7 et match à 11h, est-ce qu'on doit faire payer l'accès aux sites touristiques et notamment à la montagne, les sites, les lacs, les massifs forestiers victimes de leur succès. On a des maires qui envisagent de mettre en place en fait des parkings payants, ce qui fait que ça limitera l'accès ou ça pourra dissuader. Est-ce qu'ils ont raison? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG, faire payer l'accès aux monuments touristiques. On a oui pour Didier contre non, notamment pour Kaouter et Mehdi. En attendant, notre nouveau sujet de discussion va nous amener à parler de notre vie quotidienne et on constate tous de ces prix qui ne cessent d'augmenter. Et là, ça continue au cœur de l'été à monter ces prix. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire face? 32-16 pour le dire au GG.
RMC, les grandes gueules.
Déjà aujourd'hui, nous manquons de viande. C'est la raison pour laquelle le prix a augmenté. C'est ce qu'il faut expliquer aussi aux consommateurs. La production laitière baisse dans le monde. Toutes les charges des éleveurs augmentent. L'alimentation des animaux qui a pris 30%. Le carburant a doublé. Les engrais ont augmenté de 120%. S'il n'y a pas de hausse sur les prix de vente de nos produits, nous serons dans le rouge. Donc c'est d'abord aux consommateurs français de comprendre, et certains le comprennent très bien, et commencent à dire oui, achetons français pour soutenir les agriculteurs français.
Voilà, vous avez entendu Christiane Lambert, la présidente de la Fédération syndicat agricole, la FNSA. L'équation, elle est simple. Tout a augmenté, les matières premières ont augmenté.
Effet domino.
Le coût de l'énergie a augmenté, donc les éleveurs ils doivent répercuter et ensuite ça se retrouve aussi dans les grandes surfaces. Alors j'ai regardé les augmentations qui sont au-dessus de 25% depuis le 1er janvier dernier. La cotation du blé, elle est 25 à 30% supérieure à la même époque l'année dernière. Vous savez quel est le produit qui a le plus augmenté si on regarde les rayons de supermarché?
Les pâtes.
Non, c'est le blanc de poulet Fleury Michon. 38%. L'huile Fruit d'Or. 37%. Ce qu'on appelle les produits du quotidien, je vais pas vous faire toute la liste, mais grosso modo, on a une moyenne de 28 à 30%. Et ça continue au cœur de l'été, ce qui veut dire que septembre, octobre, là où en fait tu rentres de vacances, tu fais les courses pour les enfants, tu prépares la rentrée.
Et les chemins, il a augmenté de combien au 1er juin?
Effectivement. Les augmentations de salaire, c'est 3% en moyenne. Ah. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire face? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ces augmentations de prix? 32-16 pour le dire au GG, monsieur Didier Giraud.
Écoute, j'aurais envie de te dire super. Super, parce que ça fait 70 ans qu'on fait croire dans ce pays que la bouffe c'est gratuit, que la bouffe ça n'a aucune valeur et que tout le monde peut baisser le pourcentage qu'il consacre à l'alimentation dans le panier de la ménagère à l'infini. Sauf que c'est pas le cas, quoi. Enfin, tu l'as bien expliqué, Alain. Aujourd'hui, pourquoi on est sur des produits agricoles, enfin, des produits rendus aux consommateurs dans l'alimentation qui augmentent, c'est parce que tout a augmenté. Aujourd'hui, il n'y a plus un produit agricole qui n'a pas un coût de transport en amont ou en aval de leur production. Il n'y a plus un produit agricole qui n'a pas, enfin, tout ce qui a augmenté, quoi. Aujourd'hui, le principal facteur d'augmentation des prix agricoles, c'est d'abord le transport. Le transport de ce que moi, agriculteur, j'achète et le transport de ce que je vends. Derrière ça, il y a quand même un phénomène de fond qui date depuis plusieurs années. C'est que mon métier, comme d'autres métiers, hein, comme le chauffeur de bus, ça manque d'attractivité, quoi. Hein. Je le dis souvent, mais je peux répéter ce chiffre. Il y a 57% des vaches, il y a 70% des vaches de Bourgogne qui sont détenues par des éleveurs de plus de 57 ans. Voilà. Mon métier manque d'attractivité parce que l'agribashing, parce que les normes, parce que le manque de
bien sa vie.
Le manque de revenus, la difficulté du métier.
Donc
on arrive sur
aussi.
Un truc qui est tendu en termes de production, qui est limite à l'équilibre, voire la balance commerciale française a basculé en déficitaire.
Oui, mais le consommateur, il entend tout ça, mais lui, il va faire ses courses.
Mais derrière ça,
et
tu rajoutes,
moi je prends 15, 20, 30%.
Ben oui, parce que quand tu rajoutes un aléa climatique, comme on est en train de vivre, les vaches qui produisent du lait, là, ces jours, elles produisent 30% de moins. Quand t'es sur l'augmentation de l'engrais, bah, il y a des gens qui vont pas mettre d'engrais, donc on va produire moins. Voilà, ça fait des dizaines d'années que je le répète, enfin, à ce micro, une dizaine d'années. La France est en danger dans l'autosuffisance alimentaire pour toutes ces raisons. Donc après, c'est l'effet du marché, hein, c'est mécanique. Hein. Quand il n'y a pas assez de production, le prix monte. Et où je suis pas non plus hyper heureux de la situation, c'est parce que la tentation des industriels et des grandes surfaces va quand même d'être de se retourner vers le marché mondial et d'aller faire travailler l'import. Alors, il y a quelques secteurs comme la viande bovine, le blé, on est protégé parce que la crise, elle est la même dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde. Mais il y aura des produits comme le blanc de poulet tel que tu l'as décrit tout à l'heure, Alain.
Le fleur émission 38%.
Où ils iront se servir de l'autre côté de l'Atlantique et puis voilà, les prix vont rebaisser, quoi. Mais aujourd'hui, il y a certes peut-être quelques produits où les agriculteurs gagnent un peu mieux leur vie par ce truc, mais quand tes prix augmentent, comme tu l'as dit, de 15-20% et que tes charges augmentent de 50, tu gagnes moins bien ta vie, quoi.
Toi, c'est ton cas en ce moment.
Mais oui, parce que les charges, elles explosent. Enfin, la liste qu'a fait Christiane, je peux te la refaire, c'est exactement ça. 50% sur le carburant, 120% sur l'engrais, et tous les produits augmentent. Là, je suis en train de regarder pour ma campagne
donc,
hivernale.
Donc, toi, tu vas perdre de l'argent.
Mais oui, parce que
mes producteur
parce que
de viande, tu vas perdre de l'argent.
Mes prix de vente ont augmenté, mais mes charges ont plus augmenté que mes prix de vente. Mais c'est d'abord le problème des bassins de consommation en face des bassins de production. Puisqu'on a quitté ça depuis les années 60. Aujourd'hui, tout a du transport, quoi. Moi, ce que je produis, eh ben, il y a de l'aliment, donc des céréales qui viennent de 500, 600, 3000 kilomètres pour produire mes animaux. Et la viande que je produis, moi, elle est mangée à 700, 800 kilomètres. Donc, à un moment donné, avec du gasoil qui double ou qui triple bientôt, eh ben, c'est normal que les prix augmentent, hein.
Mehdi et Kauter.
Les lobbies, on en parle quand?
Moi, je
te comprends, hein, t'es agriculteur, je comprends, c'est l'effet domino que tu augmentes tes prix parce que justement tes charges augmentent, il n'y a aucun souci sur ça. Mais d'augmenter de 30% avec comme fonds de commerce, de communication, la guerre en Ukraine, en disant que tout ça vient à cause de l'Ukraine, enfin, excuse-moi, à part, je suis désolé parce que quand t'entends certaines informations, on dirait que l'Europe se fournissait exclusivement en Ukraine de tout. On dirait que l'Ukraine, c'était le Aldi ou le Lidl européen. On se fournissait de verre. Tu dis n'importe quoi, ils te disent l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. À un moment, je sais pas, des fois, j'ai vraiment l'impression, c'est plus on est des moutons, on a la prairie complète, quoi. Si maintenant l'Ukraine, où il y a eu un conflit qui a débuté il y a quelques mois, alors que nous on utilise actuellement en 2022 les récoltes de 2000,
ça c'est clair,
voilà, de 2021 voire 2020, qu'on me dise que c'est la faute d'un conflit à 2000 km de moi que les prix ont augmenté de 30%, la corrélation, c'est, enfin, l'effet.
C'est quand même la goutte d'eau.
C'est la goutte d'eau.
Qui a fait déborder le vase dans un vase qui était ras-bord.
Non. Je suis d'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gros.
Sur la moutarde, vous en avez souvent parlé. La moutarde, c'est très simple. Je vais vous le dire. Pourquoi il n'y a plus de moutarde en France? Parce que il y a un lobbying écolo qui a fait en sorte que aujourd'hui, la moutarde, c'est comme le colza. C'est la même plante. Au Grenelle de l'environnement, donc il y a déjà quelques années de ça, une matière active a été retirée en France et seulement en France. Donc la production de moutarde a chuté complètement parce que tu peux plus récolter. Et du coup, on était dépendant de la graine de moutarde qui venait du Canada, qui a eu une sécheresse l'an dernier, donc il n'y a plus une seule graine de moutarde.
Mais est-ce que tu as vu, je crois que c'était il y a trois jours, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, où tu vois un mec dans une entreprise qui filme des palettes et des palettes et des palettes de moutarde. Avec la date du 1er août, je crois, ou du 12 août, où ils te ramènent le journal du 1er août ou 2 août, en leur disant, hé les gars, il y a un hangar complet de moutarde ici. Et on
évidemment, il y a des gens qui organisent la pénurie pour ça.
Voilà, comment est-ce que les gens vont faire leurs courses, là déjà cet été et à la rentrée prochaine?
Mais comment ils vont faire leurs courses? Déjà, Meji a pointé quelque chose d'important, c'est la spéculation en fait. Parce que
il y a des lobbies derrière.
Non, mais ça existe. L'Ukraine a bon dos, mais je veux dire, moi je crois qu'on dépendait de la Chine. Pour tout, et je découvre qu'on dépend de l'Ukraine pour tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de spéculation, qu'il y a des très, très gros poissons, qu'il y a des gros lobbies, qu'il y a Monsanto derrière, entre autres, mais pas que. Et qu'à un moment donné, ça n'inquiète personne, ça n'interpelle personne, et personne ne le dénonce. Il n'est absolument pas concevable que les produits alimentaires de base augmentent de 18,5% à 35%. Quand tu me parles du blanc de dinde de Fleury Michon, c'est la nourriture des pauvres. On ne parle pas d'une entrecôte, là. On parle de la nourriture des pauvres. Donc, il y a un problème de lobbyisme qu'il faut dénoncer. Et c'est là où moi, j'en appelle aux États.
Oui, mais les coûts de fabrication, ils ont vraiment augmenté, hein, de toutes les manières. Ça, si tu veux, c'est une réalité.
Vas-y, si tu veux, mais j'y complète.
Excuse-moi, je vais te donner un exemple concret, Alain. À Aubervilliers, c'est un quartier de commerce à l'origine de tissus à la sortie de Paris, enfin à la porte de Paris. Je vais te dire un truc qui va te choquer. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Toutes les personnes qui faisaient du tissu il y a 3 ans, qui ramenaient de Chine des conteneurs qui se sont arrêtés pendant le Covid, sont rentrés dans les masques. On commençait à vendre des masques. Donc c'est devenu un business de masques terrible à Aubervilliers. Ces gars-là se sont mis dans l'huile de tournesol. Et tu vois, tu as des stocks et des stocks et des stocks et des stocks d'huile. Enfin, je crois que tu comprends pas le pouvoir du pognon.
Non mais
ils sont en train de réguler, de juguler le système pour la loi de l'offre et de la demande. Oui. Plus il y a de demande, moins d'offre.
Je crois que ça peut marcher sur un marché.
Non mais ça peut marcher. C'est des gens qui bougent sur le sang.
Tendu.
Tu vas juste à Aubervilliers. C'est pas la peine que t'ailles en Ukraine. Tu vas juste à Aubervilliers. Il y a du stock à Aubervilliers. Moi je le dis tout de suite. Et je le dis devant je sais pas combien de millions de téléspectateurs. Il y a du stock.
Comme les
masques à l'époque où ils te disaient il y avait pas de masques. Où vous vous rappelez?
Je vais compter des entiers.
Où il y avait des masques où on vendait la boîte à 40 € la boîte et on était comme des pigeons à aller l'acheter. Mais il y avait des millions de masques qui étaient déjà prêts, qui étaient stockés. Et les gens faisaient spéculer, monter le prix. Il faut.
Donc le politique a un rôle là-dedans. Donc sur la spéculation, Édouard Leclerc a donné quelques pistes de solutions chez Apolline à plusieurs reprises. Et je pense qu'il faut vraiment s'y pencher de manière vraiment sérieuse. Il faut arrêter parce que ça va continuer à augmenter. Dans le quotidien, les gens doivent manger. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ceux qui surconsomment et ceux qui n'ont plus les moyens de se nourrir. Parce qu'il y a quand même des gens qui... Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont les moyens, qui achètent. Je ne dis pas que tous ceux qui ont les moyens gaspillent, mais il y a quand même beaucoup de gaspillage alimentaire. Et en contrepartie, il y a des personnes qui peinent à se nourrir et à nourrir leurs enfants. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience collective et individuelle à avoir, où manger à volonté, ce n'est pas forcément signe de bonne santé, et qu'il faut peut-être se mettre aujourd'hui, au-delà de la spéculation financière.
Ça, c'est une affaire individuelle, ça.
Au-delà de la spéculation financière, mangez moins, mais mangez mieux. Parce que, non, Alain, oui, il faut manger moins, c'est mieux. Écoute-moi, que ce soit spéculation.
Mais tu ne parles pas des arbitrages dans un ménage.
Je vous ai écouté.
Mais je ne suis pas d'accord avec toi.
Bah, je peux terminer mon propos, après tu me coupes si tu veux. Voilà. Parce qu'après, on perd le fil, tu vois, c'est ça qui est chiant. Et après, quand je gueule, après, on me dit, ah, bien. Bon, passons.
Vas-y.
J'ai fait ma petite rabat-joise, là. J'ai oublié, voilà, tu vois.
Et ben justement, dans un instant, Benoît avec nous, il nous appelle de Haute-Vienne. Ça, c'est la faute de Didier, t'as qu'à lui régler son compte pendant la
pointe.
Il est dans le rouge au 15 du mois. Aurore, qui est auxiliaire de vie dans le Morbihan, à deux, ils sont à 3 500 € par mois avec 3 enfants. Et c'est dur.
Difficile.
Très dur. très difficile, va nous dire Aurore. Là, tout augmente au cœur de l'été. Là, on le voit, le lait, la baguette, les pâtes, les viandes. L'été des augmentations. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à la rentrée? On vous attend au 32-16 déjà avec Benoît et Aurore.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On regarde les augmentations. Là, au cœur de l'été, on regarde ce qui augmente très fortement. Bon, vous l'avez constaté vous-même, hein, d'ailleurs, je suis sûr, en faisant simplement vos courses, peut-être sur votre lieu de vacances, ou alors que vous êtes rentré, et puis vous voyez la flambée des prix sur les étiquettes. C'est Benoît qui va en parler avec nous. Benoît qui nous appelle de Limoges. Bonjour, Benoît.
Salut les GG.
Ou tout du moins de la Haute-Vienne. Vous les voyez, ces augmentations? Et ça va continuer à la rentrée, hein, Benoît. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à faire face?
Moi je les vois, ça fait déjà un petit moment que je les vois. Je crois que l'INSEE a prévu la récession pour 2023. Donc c'est un gros mot, personne n'ose en parler, mais bon, on y va très fortement. Hein. Et à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Moi je suis assez agacé par rapport à nos gouvernants. Alors bon, c'est pas propre à ceux actuels. Hein. Je pense que ça fait 30 ans qu'on a des incompétents au pouvoir, aussi bien en France qu'en Europe. Hein. Mmh. Ça, c'est une certitude. Alors, soit on a des incompétents, soit on a des gens qui s'en foutent et qui préfèrent favoriser, comme on l'a dit tout à l'heure, les lobbies et la spéculation, plutôt que le peuple qui en a marre, quoi. Là, tout augmente. Tout vient d'Ukraine. Même le café. Je savais pas que l'Ukraine était un des premiers producteurs de café.
Ouais. Maintenant, on rigole avec l'Ukraine, mais vous savez, par exemple, pour le café, c'est simplement les coûts de production, les coûts d'acheminement. C'est tout ça aujourd'hui qui coûte très cher.
L'Ukraine, elle a fait peser une augmentation
sur l'énergie.
Et comme dans tout ce que vous mangez aujourd'hui, il y a de l'énergie. Enfin, Benoît, si vous allez acheter de la viande chez un producteur de Limousine à côté de chez vous, des pommes locales, l'augmentation, elle va être infime s'il y a augmentation. Parce que dedans, il n'y a pas d'énergie, quoi. Hein. Si vous commencez à manger des cordons bleus surgelés, bah forcément, l'augmentation liée à l'Ukraine, donc liée au coût de l'énergie, elle est énorme, quoi.
Benoît.
Alors, on va être franc. Moi, je suis un ancien cuisinier, donc j'essaye de manger à peu près sainement. Je cuisine beaucoup, donc ce qui réduit un petit peu mes coûts. Clairement, plutôt que d'acheter des maintenant je pense qu'on se trompe en fait. Par exemple, moi j'ai une spéciale dédicace, vraiment une spéciale dédicace à notre champion du monde, monsieur Bruno Le Maire, hein, qui est un ministre de l'économie tellement exceptionnel qu'il voulait mettre l'économie russe à genoux. En fait, elle s'est jamais aussi bien portée. Par contre, la nôtre, on peut pas en dire autant. Quand on met des sanctions, tout le monde le dit, hein, je veux dire, à un moment donné, il n'y a jamais une sanction qui a été efficace. Je vais prendre des exemples tout con. On nous dit on n'achète plus de pétrole. Bon, d'accord. Alors, on va aller chercher sur les pays de l'OPEP. L'OPEP, ils n'ont pas prévu d'augmenter leur production. On voit que les pays de la BRICS, qui sont majoritairement proches de la Russie, ils n'ont pas envie de nous faire plaisir non plus. Mmh. À un moment donné, je pense qu'il faudrait quand même que les gouvernants se posent des questions sur, par exemple, la spéculation, sur les lobbies. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Je pense que c'est important.
Et du coup, comment vous allez faire, vous, à la rentrée prochaine, Benoît? Je sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Vous êtes dans le rouge à quel moment du mois, alors?
Oh, moi, je suis dans le rouge à peu près aux alentours du 10.
Comme beaucoup de Français, Benoît.
Il y a un truc qui m'énerve. Et franchement, il y a un truc qui m'énerve. C'est l'échec cadeau, l'échec essence, l'échec bouffe. Moi, je touche 1005. Il y a 20 ans, j'étais cuisinier. Je touchais 5600 francs, donc à peu près un peu moins de 900 euros. Il y a 20 ans, j'avais mon appart, j'avais ma voiture, je pouvais partir en vacances, je pouvais faire plein de choses. Là, je suis à 1005. C'est compliqué. C'est compliqué de
tout
le faire. Tout seul, oui et non. Moi, je suis séparé. Donc, j'ai une pension alimentaire à verser.
Voilà. Donc, ça grève votre budget aussi, quoi. Voilà.
Bien sûr. J'ai une compagne qui vit.
Le gouvernement n'y peut rien, hein, sur votre pension alimentaire.
Non. Et puis, de toute façon, c'est ma responsabilité. Donc, c'est normal que je paye. Moi, ce que je reproche, c'est que je travaille et j'arrive pas à vivre décemment de mon travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme ça. Et à un moment donné, ça commence à gonfler. Quand on voit que les grosses fortunes ont explosé depuis deux ans. Comment ça se fait que nous, les petites gens, on n'arrive plus à vivre de notre travail?
Donc ça veut dire qu'aussi, vous aimeriez qu'il y ait un impôt crise ou des taxes supplémentaires sur les grandes fortunes, sur les grandes sociétés aujourd'hui?
Ben, déjà, ça serait pas mal qu'ils payent leurs impôts tout court. Je veux dire, regardez, on a fait le CICE. Le CICE, on a dit, oh bah oui, non, ça va être, c'est quand même quelques milliards par an. Il n'y a pas eu d'augmentation des salaires, il n'y a pas eu d'augmentation il n'y a pas eu d'embauche. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Quand on parle de ruissellement,
avant la crise Covid, on avait un taux d'emploi on avait un taux de chômage qui avait bien baissé, qui était au plus bas depuis 15 ans, Benoît aussi.
Mais non, faut arrêter. Non. Le taux de chômage, il baisse pas. C'est juste qu'on sort des gens des stats. Et, mais bon, à un moment donné, quand vous êtes plus considéré demandeur d'emploi, moi j'ai toujours travaillé dans ma vie. Hein. Je bosse depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 44, il va falloir que j'aille à 67. J'ai toujours bossé. Mais j'ai jamais été sorti de vous voyez ce que je veux dire. Oui. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Je suis pas complètement sûr qu'il y ait moins de chômeurs. C'est juste qu'il y en a pas mal qui ont été sortis, histoire de faire bien. C'est comme la délinquance. Ah ben tiens, la délinquance, il y a moins de délinquants. Ben oui, forcément, si on prend pas tous les chiffres, il y a moins de délinquants. Si on prend tous les chiffres, je pense que ça a explosé. Il y a des choses. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête.
Benoît, en tout cas, ce qu'on retient de ce que vous nous dites, c'est que au 10 du mois, aujourd'hui, vous êtes dans le rouge face à ces augmentations et cette spéculation que vous aimeriez bien voir combattre. C'est Aurore qui est avec nous. Bonjour, Aurore.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour, Aurore. Et vous, comment vous faites alors aujourd'hui? Vous les voyez, ces augmentations, Aurore?
Ah bah oui, très clairement. C'est carrément devenu anxiogène, le supermarché.
Ah oui, carrément.
Je le dis en plaisantant, mais je le vis vraiment comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'y vais, je fais des listes, je budgétise à fond, je calcule tout, je réfléchis tout. C'est une charge mentale supplémentaire.
Ça joue sur le moral des ménages.
Ah, très clairement. Très clairement, ouais. Nous, on a trois enfants, je cuisine énormément, je fais beaucoup de choses maison, donc j'arrive à faire des...
Limiter les coûts,
ouais. Mais nous, on est à, allez, on va dire 3500 euros par mois. Moi, je travaille de nuit pour atteindre 1300-1400 euros, hein, tout dépend des remplacements que je fais, et j'enchaîne après minuit, deux jours, parfois. Après 12 heures de travail, je continue le matin jusque 14 heures pour essayer péniblement de rentrer 1600 ou 1700 euros.
Et avec votre mari, ça se passe comment alors, lui? Quel est son métier?
Lui, il est éducateur, moniteur auprès de travailleurs handicapés en ESAT.
D'accord. Et donc à deux.
950 euros net par mois, il a 51 ans.
Donc à deux, vous tournez aux alentours des 3005 à peu près, c'est ça?
Ouais, on va dire que c'est une moyenne parce que j'arrive pas toujours à trouver des compléments d'heures de jour. Donc en licence sur l'année, on peut dire qu'on est à 3500 euros. Quand on va au supermarché, qu'on s'arrête à la station essence pour faire le plein, sur le retour à la maison, moi je suis dépitée. En fait, je calcule tout le temps. Et en fait, si par anticipation, je sais mes charges fixes qui vont être prélevées, donc je sais ce qu'il me reste. Et effectivement, le rouge, c'est au 15 du mois, quoi.
Est-ce que vous reniez sur le budget alimentation, en fait,
oui,
sur vos courses?
Oui. J'essayais de prendre du bio dans les œufs, le beurre, le lait ou les gâteaux pour les enfants. Voilà, je suis revenue là-dessus. On mangeait quasiment peu de poisson et de crustacés, on oublie toujours. Le bœuf, on avait aussi enlevé ta liste de courses, hein, et ça avant que les prix augmentent. Hein. Le bœuf, c'était une ou deux fois par mois. J'essayais de prendre du bon, mais très très peu. Donc on se tourne vers les œufs, mais même le poulet, où j'arrive à me rattraper dessus, le poulet, le prix, il a explosé.
Et du coup,
vous le cœur par-dessus tout.
Allez-y.
Excusez-moi.
Je vous en prie, Aurore.
On donne à nos enfants. Je travaille de jour, je travaille de nuit pour me retrouver dans le rouge.
Pourquoi ça va,
je
paye pas?
Et là, je me fais percuter par des questions existentielles par mes enfants en me disant « Mais moi, je n'en veux pas de cette vie-là, maman. »
C'est-à-dire, vos enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les questions qu'ils vous posent, c'est quoi, Aurore, alors?
Ils vont leur parler
au bagne. Ils travailler de nuit, de jour.
Il y a de la perte de sens. Ils ont une maman qui est tout le temps fatiguée, qui travaille de nuit, de jour,
ouais.
Qui essaye de péniblement d'avoir un salaire au moins 1700 euros pour que ce soit vivable. Et je me démène et c'est compliqué.
Et bravo à vous. Et moi, je suis obligée d'intervenir. Bravo à vous.
Et je ne sais pas que répondre à mes enfants. quand ils me disent « mais maman, est-ce que c'est ça qui nous attend ? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens de l'existence ? Est-ce qu'on se lève tous les matins pour ne pas payer un resto ? Ou bouffer des œufs parce que bah, ça reste accessible ? Vous savez, on n'a qu'une vie.
C'est ça.
À la fin, on ne rejoue pas la partie.
C'est-à-dire que là, en plus, vous êtes en train de vous user la vie, quoi, en fait, à travailler deux jours, deux nuits.
Je vais me retourner.
Ouais.
D'ailleurs, ce que j'aurais fait de mon existence, j'aurais travaillé. Voilà.
Mais pourquoi ?
C'est-à-dire, est-ce que.
Aurore,
elle a quel âge ?
Aurore. Ouais, Aurore, simplement, il y a quelques années, avant la crise Covid, il y a quelques années, vous arriviez au quotidien à vous en sortir avec votre mari, ça vous viviez mieux ?
Oui,
il y a 3-4 ans encore. Ouais.
On était encore capable de se glisser un petit resto de temps en temps.
Ouais.
Et quand je dis de temps en temps, c'était de temps en temps. Le petit surplus ou de dire à mes filles, ben, allez, venez aujourd'hui, on fait un petit coup de boutique. Alors le budget était toujours limité, hein, j'ai dit aux filles, faut pas dépasser 80, faut pas dépasser.
Il était serré, mais il y avait quand même il y avait une marge.
Oui, mais c'était pas normal avant et c'est pas normal aujourd'hui, Aurore. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites exactement. Moi, avant que vous craquiez, là, je me posais la question, vous faites un métier essentiel ainsi que votre mari. Vous êtes auxiliaire de vie. Vous vous occupez des personnes qui sont vulnérables. Votre mari est moniteur éducateur auprès de personnes qui ont un handicap. C'est aussi un métier essentiel. Ce sont des métiers difficiles. Vous avez dit quelque chose d'important, vous êtes un exemple pour vos enfants. Donc la valeur travail, ils l'ont inculquée. Parce que vous allez travailler, vous travaillez jour et nuit. Mais moi, je me pose la question en tant que mère, déjà en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il vous reste de temps à vivre avec vous-même, avec votre époux, avec vos enfants? Il ne reste rien, parce qu'après, il faut rentrer, il faut s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et ensuite, vous avez posé une question essentielle. Moi, quand j'étais éducatrice, quand j'ai commencé il y a quelques années, c'est important ce qu'elle a dit. J'ai vu des petits qui étaient issus de familles comme celle de madame, où les parents travaillaient, les mamans étaient femmes de ménage, elles allaient à pied travailler parce que le matin, il n'y avait pas de bus, dans des cités qui étaient éloignées, le père travaillait sur les chantiers. Et les petits... Pas tous, hein, mais une partie a mal viré. Et moi, je n'ai pas compris. Je les ai chopés. Je dis, mais venez là, je ne comprends pas. Vos parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils m'ont dit, justement, nos parents ont travaillé toute leur vie et ils ont peiné et ils ne sont même pas arrivés ni à sortir de ce taudis, ni à nous nourrir correctement. Il m'a dit, à part avec toi, Kauter, on n'est jamais partis en vacances, c'est-à-dire, sous-entendu, au centre social. Oui. C'est-à-dire que leurs parents n'ont jamais pu les amener en vacances, en France ou ailleurs. Ils n'ont jamais pu avoir d'extra. Et tu travailles pour payer des taxes pour une caste en col blanc qui a des années-lumière des problématiques des personnes qui sont comme vous, comme moi, qui sont dans la vraie vie, qui travaillent, qui passent leur vie à travailler, à payer et qui n'ont même plus le loisir de partager des moments de vie, cette vie qui est unique et précieuse pour chacun d'entre nous. C'est absolument intolérable. Il faut que nos politiques, là-haut, il faut qu'ils comprennent qu'on est arrivé à la fin d'un cycle d'exploitation des plus pauvres, d'exploitation des plus essentiels, des salaires les plus bas, et qu'il est urgent aujourd'hui de redonner de la dignité aux personnes qui font ce pays, qui sont ce pays, et grâce auxquelles ce pays est debout. Si le pays est debout et qu'il craque pas, c'est grâce à des personnes comme Aurore, c'est comme des Benoît, des infirmières auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des agents de sécurité, et pas de cette caste en col blanc qui est sur, qui est surentretenue par nos impôts, parce que c'est... Putain, mais ces gens-là sont nos salariés, quoi. Il faut le redire, c'est pas du populisme de dire ça. Qu'ils soient ministres, présidents.
Les gens votent de moins en moins.
Oui, ils votent de moins en moins.
Mais aujourd'hui, il est
quand t'as 60% d'abstention.
Oui, mais c'est nos salariés.
Les gens, ils pensent à ce que t'es en train de dire.
C'est pas des fonds publics, c'est pas des fonds privés qui les payent. C'est absolument intolérable. Donc, courage à vous.
C'est l'exemple quand même de ces métiers. Enfin, je me rappelle du reportage du film de François Ruffin, quoi. Aurore, elle nous décrit cette situation-là. On est dans ces métiers dévalorisé, sous-payé, hyper consommateur d'énergie et chronophage, où les gens ils gagnent pas le service qu'ils rendent à la société. Voilà, c'est sûr.
Avec le budget alimentation qui aujourd'hui tu es obligé de le baisser, le budget alimentation si tu veux. Tu vois, c'est ce qu'elle disait Aurore aussi. C'est ce que lui disent ses enfants.
C'est devenu la dernière variable d'ajustement.
Mais en fait, c'est une chaîne qui est infernale parce que en bout de chaîne il y a toi aussi. Si tu veux, parce que quand tu rognes sur la viande, comme le disait Aurore, avant on achetait de la viande de bœuf, on essayait d'en acheter moins, mais d'en acheter mieux. Toi, c'est ce que tu dis souvent, mais si t'en achètes moins, les producteurs de bœuf comme Didier, en bout de chaîne, c'est toi qui trinques aussi, quoi.
Non, mais là, il y a un vrai choix de société à faire, c'est que pour aller jusqu'au bout et en regardant la partie de mon métier, c'est que l'autosuffisance alimentaire de la France n'étant plus acquise. T'as un enjeu de sécurité, quoi. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, et Mehdi, tu l'as dit, dans la spéculation qu'il y a, ça devient une arme, l'alimentation. À l'échelle du monde, avec la spéculation, ça devient une arme.
La famine,
quand Poutine, il décide de bloquer le port d'Odessa.
C'est une arme. Parce qu'il sait très bien que le marché mondial des céréales était hyper tendu l'année dernière. Le port d'Odessa, et c'est là où je voulais expliquer ce qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure. Le port d'Odessa, les céréales ukrainiennes, elles livrent d'abord le Maghreb. Les clients de l'Ukraine, c'était le Maghreb.
À l'origine.
Mais quand tu bloques ça, qu'est-ce qui se passe? Le Maghreb cherche à acheter ailleurs, sur le reste du marché mondial, et ça continue de tendre tout le cours du blé et en cascade tout ce qui est dérivé du blé. Donc je veux dire aujourd'hui ne sous-estimons pas l'indépendance alimentaire des nations pays français, de l'Europe, parce que c'est une arme mondiale demain.
Je remercie Aurore dans tous les cas de sa sincérité et de son émotion qu'on partage bien sûr et d'avoir été avec nous. Dans un instant, le monde de Macron. Dans un instant, le quiz des GG et le journal du off et le président de la République dans le viseur des écologistes, parce qu'après avoir fait du canoë, il a un refus du scooter des mers, visiblement.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, avec à ses côtés Mehdi Ghezard, chef d'entreprise multicarte entre Paris et les Hauts-de-Seine. Et puis nous sommes avec
Je déteste ton ironie. Alors,
non mais c'est pas grave, c'est une entreprise multicarte, c'est vrai. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. On est rejoint par Paul Lassen, notre coproducteur, parce que c'est le journal du off et le quiz des GG. C'est parti. Le journal du off, vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous avait montré cette photo du président de la République qui est actuellement en vacances du côté du fort de Brégançon. C'est la résidence estivale des chefs de l'État français. Alors, il est en vacances à Brégançon, il faisait du canoë la semaine dernière. Et puis là, si on se fie à nos confrères de la presse People et de Voici en particulier, eh bien le président de la République a repris le jet ski comme il y a 2 ans, en 2020. Donc le côté écolo aura duré quelques temps. Là maintenant, on a pris le jet ski. Du coup, il s'est retrouvé de nouveau dans le collimateur des écologistes, le chef de l'État. Et les écologistes, en particulier Madame Sandrine Rousseau, estimaient que ce geste,
c'était horrible, un jet ski, oh là là, il va tuer 4 personnes.
Regarde,
avec
réchauffement climatique, la sortie en jet ski du président est criminelle.
Ah bah ouais.
Madame Rousseau.
Non mais Rousseau, tais-toi. J'ai envie de dire Rousseau, tais-toi. La semaine dernière,
il ne comprend pas le réchauffement climatique. C'est criminel de ne pas le comprendre. C'est ce que dit Madame Rousseau.
Mais elle comprend pas le réchauffement
la
cérébral.
La vie, elle connaît la vie.
C'est impressionnant.
J'ai cherché la semaine dernière la déclaration des Canadairs. C'est le Gorafi. C'est quand même. Non, mais c'est le Gorafi. C'est un fait. J'ai dû gratter. Mais elle a vraiment dit qu'il faut arrêter les Canadairs parce que ça vide les lacs.
C'est Sandrine Rousseau.
Mais t'imagines le niveau de réflexion, quoi.
Mais ça t'étonne encore, Didier.
On laisse brûler les forêts. Merde, le président fait un tour de jet ski. Enfin, je sais pas.
Mais t'imagines que c'est ce qui en 2022.
En même temps, les écologistes sont dans leur rôle. Enfin, le non, mais c'est quand pas, mais président, c'est... tu donnes l'exemple.
Mais tu donnes l'exemple
quelqu'un qui a fait la convention climatique, quelqu'un qui a dit on va make our planet great again.
Il est pas sur un yacht de 20 mètres en train de se bronzer la pilule. Enfin merde, je suis pas. J'ai jamais été, je ne serai jamais un supporter de Emmanuel Macron, mais à un moment qu'un président de la République fasse un tour de jet ski pendant une heure ou une demi-heure, ben voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. Il a droit un peu de décompresser. Arrêtons de trouver des faux débats débiles comme ça. Enfin, c'est Sandrine Rousseau. Elle adore le bad buzz. Elle adore critiquer tout et n'importe quoi. C'est Sandrine Rousseau dans toute sa splendeur, voilà.
C'est de la télé-réalité, en fait. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, entre autres, c'est pas la seule. En fait, c'est comme si il fallait tout commenter. Il y a des choses qui se commentent pas. Avance.
Ce qu'elle commande, c'est la sortie jet ski
On vient d'avoir une dame au téléphone qui s'est effondrée. C'est pas la seule. Je me rappelle de Anna le 7 avril. Là, c'était Aurore. Les gens travaillent. Ils essayent de donner un bel exemple à leurs enfants. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Et toi, tu me parles du jet ski. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait, du jet ski, sans déconner?
C'est le décalage, justement, avec le chef de l'État qui prend du plaisir, qui s'amuse avec son jet ski.
Ouais, mais il est en vacances. franchement, ouais, attendez, mais... faut pas, attendez, c'est tu es président de la République, tu travailles 11 mois sur 12, ouais, si ce n'est 24 heures sur 24, 12 sur 12. Donc, à un moment donné, tu fais une heure de jet ski. Je suis pas fan de Macron quand même, on le sait. Mais à un moment donné, tu peux prendre une heure de jet ski, une heure de faire de la pilule, de massage, de ce que tu veux. Tu as le droit aussi de. Et justement, quand tu es à la tête d'un pays, tu as aussi le droit d'évacuer cette tension, c'est mais bon.
Est-ce qu'il n'a pas un devoir d'exemplarité vu la période?
Non. D'exemplarité de quoi?
Il faut qu'on arrête de culpabiliser.
On dirait qu'il est en train de foutre le feu à une bagnole.
Mais
c'est ça le problème. Mais il y a 80% des Français qui sont en vacances. Tu vas partout dans les villes sont vides, tout le monde est dans le sud. Oui. Et à un moment, tu as le droit d'avoir une. Le type, je ne suis pas en train de te dire qu'il est au Plaza Athénée avec des bouteilles de Magnum sur la table. Il a pris une demi-heure où il a fait un tour de jet ski.
Oui, mais on ne demande pas aux Français de ne pas boire de champagne.
Mais derrière ça, il a le droit d'avoir un peu de.
Faire la chasse à l'exemplarité de façon aussi stupide que le fait Madame Rousseau, à force de faire la chasse à l'exemplarité, je pense que le message primaire, le premier message, le message important sur la rigueur énergétique, on va dire, eh ben, il devient plus entendable, quoi. Il devient plus entendable parce que tu vois fleurir sur les réseaux, sur Facebook et sur Twitter, les exemples où l'exemplarité qu'on te demande, qui peut être légitime de faire un peu d'économie cet hiver, il y a tellement des trucs énormes en face que les gens ils disent bah merde, c'est pas à moi de faire l'effort, quoi. Et ce genre d'exemple prouve que si tu veux avoir un message, il faut pas en faire des caisses, quoi. Parce que moi je fais que lire ces temps le nombre de stades au Qatar qui vont être climatisés cet été, les avions de la Lufthansa qui voyagent à vide pour garder les créneaux. Je fais que lire ça parce que les gens ils en ont marre qu'on leur fasse des leçons de morale. Alors que comme Madame Rousseau, on n'est plus dans la vraie vie non plus, quoi. Hein. Parce que si on peut dire que le président de la République, il est peut-être pas dans la vraie vie et il devrait avoir un devoir d'exemplarité, merde, il est en vacances. Elle est pas non plus dans la vraie vie, quoi. Quand tu commences à taper sur les Canadairs parce que ça consomme trop de gasoil et ça vide les lacs, à un moment donné, t'es pas crédible, tu vois, quoi. Le message primaire,
c'est
un message d'écologie, il est plus entendable, quoi.
L'exemplarité, c'est des choses inutiles, tu vois. Les véhicules qui sont comme ça dans la cour de l'Élysée, à tourner à vide en termes de clim, c'est complètement inutile. Là, oui, tu dois être exemplaire, parce que c'est du gaspillage pour du gaspillage. Mais là, prendre une heure de bon temps quand tu vas revenir avec une rentrée qui va être explosive, ça va.
Moi, quand j'étais à l'armée, je faisais tourner mon engin qui consommait 2000 litres de gasoil à l'heure et on le faisait tourner à vide toute la nuit.
Bravo. Quand t'étais à l'armée, tu faisais quoi?
Tourner à vide mon engin agricole. Un engin agricole.
Oui, d'accord, pardon. Alors,
j'ai oublié quand que j'étais pas armé.
Je faisais tourner mon engin.
Et du coup, on faisait tourner à vide.
Me mêle pas ça, là.
Du succès?
On faisait tourner à vide toute la nuit pour pouvoir conserver les contingents de gasoil sur l'année d'après, Voilà. Ça, c'est un gasoil. Gaspillage qu'on doit combattre. Là, c'est pas le cas, quoi.
On passe au quiz des GG, s'il vous plaît.
On va se cotiser
pour. En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Allez, vas-y, Paul. Toutes tes petites questions, petits questionnaires là, avec Mehdi, Kauter et Didier qui vont répondre.
Eh bien, justement, on va rester sur les vacances d'Emmanuel Macron. Pourquoi le président de la République doit-il faire escale dans un pays étranger avant d'arriver dans le fort de Brégançon, sa résidence de vacances?
Une obligation?
Il passe par Monaco?
Non. Mais c'est un peu l'idée.
Le Vatican, non. Il y a une péninsule ou non?
C'est dans l'idée, mais je vous avoue que c'est assez compliqué. Je vous donne
la réponse. Il traverse une frontière pour aller au fort de Brégançon.
Eh bien, absolument, puisqu'il doit traverser une propriété qui s'appelle la Tour Sarrazine. C'est une grande maison située près de Bormes-les-Mimosas. Et cette maison, elle appartient au Grand-Duché du Luxembourg depuis 1949. Et du coup, elle bénéficierait du statut d'extraterritorialité qui a été accordé par le général de Gaulle à l'époque. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a même une plaque sur cette résidence, un peu comme un bas-relief avec la lettre L, symbole du Grand-Duché. Donc aujourd'hui, évidemment, dans la région, il y a débat sur est-ce que cette zone appartient vraiment au Luxembourg ou pas. Mais aujourd'hui, a priori, oui. Donc il est obligé de traverser une frontière, mais que tous les gens qui passent par là traversent
aussi,
avant d'arriver au fort de Brégançon.
C'est la Tour Sarrazine, si vous passez par le Var et Bormes-les-Mimosas, si vous êtes dans le coin, passez voir. En plus, c'est tellement joli, Bormes-les-Mimosas. On continue.
On enchaîne. On vous en parle depuis tout à l'heure dans les GG, la sécheresse qui touche la France. Mais qui, il y a plus de 10 ans, en 2010, avait prévu qu'il n'y aurait plus d'eau dans 20 ou 30 ans, mais à l'époque, on se moquait de lui?
Hulot?
Non.
Qui? Un écologiste?
Non, c'est un acteur.
Ah. Écolo?
Depardieu?
J'aurais pas dit ça. Ça ne me serait pas venu à l'esprit tout de suite. Il est belge.
Benoît Poulvord ?
Non.
Ah, François Damiens ?
Non.
Jean-Claude Van Damme ?
Excellente réponse.
Bravo.
Écoutez, c'est très court, donc tournez l'oreille.
On rigolait de tout ce qu'il disait, pas que ça.
Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Voilà, j'adore l'eau, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Donc aujourd'hui, cette séquence, elle ressort partout sur les réseaux sociaux, sur les sites d'info. À l'époque, c'était devenu une phrase culte, parodie, sticker, ça avait même été imprimé sur des t-shirts. Et donc voilà, sur Twitter, ça remonte. Donc est-ce qu'il était visionnaire ou est-ce que, comme souvent les phrases de Jean-Claude Van Damme, c'était une
si
phrase
Jean-Claude
de Jean-Claude Van Damme
est visionnaire, Sandrine Rousseau a le prix Nobel de la paix. Hein.
Tiens, mais justement, on en parlera demain de ces, aussi de ces maires qui aujourd'hui coupent le robinet dans leur commune pour faire en sorte qu'on économise l'eau. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne solution? Ça sera un débat demain dans les GG, dans les grandes gueules. Paul.
Les GG, qu'a fait le zoo de Londres pour alerter sur certaines espèces en voie de disparition? Je vous propose trois propositions. Ils ont choisi l'absurde en mettant un faux minotaure en cage. Ils ont rasé une des cages à coups de pelleteuse pour créer le buzz. Ou ils ont remplacé un crocodile par un sac en peau de crocodile.
Ils ont remplacé le crocodile par un sac.
Oui. Bonne réponse.
C'est
très cynique. On va le voir sur RMC Story. Avec un panneau à côté, en 75 ans, plus de 80% de ces crocodiles ont disparu, à l'instar de celui qui se trouve sous vos yeux. Beaucoup ont été chassés pour leur peau dans le cadre d'un trafic illégal d'espèces sauvages. Mais il faut savoir que cette opération, elle est en place depuis plusieurs mois au zoo de Londres, mais qu'elle vient seulement d'émerger un peu sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on en parle.
Ça veut dire
que
tout le monde passait devant le sac,
regardait et s'en foutait complètement, quoi, en fait.
Ouais. C'est un peu ça l'idée.
Ouais,
bon. On continue à parler d'écologie, enfin plus ou moins, puisque je viens un peu de vous donner la réponse. Qu'est-ce qui va apparaître sur les applis de guidage automobile type Waze, Google Maps ou Citymapper?
Ah oui, par rapport, ils nous ont envoyé une note par rapport à ça, et comme quoi, c'est quelle est la consommation de carbone que tu vas utiliser par rapport aux routes au temps de trajet que tu vas utiliser.
C'est même un décret qui a été publié au journal officiel.
On va gagner de la compétitivité quand on va faire ça.
On va vous proposer plusieurs itinéraires, le plus rapide ou le plus écolo.
Le moins polluant. Non, mais il a raison.
Avec des petits messages.
Le tout, c'est est-ce que tu le suivras, ça?
Non, plus rapide. On est dans une société où tout doit être lié au temps, malheureusement. Et on a des véhicules qui sont en 2021-2022 qui ne consomment pratiquement plus rien en termes de...
Pas les tiens.
C'est-à-dire que
tu vois, les gens, ils peuvent souscrire, mais qu'on leur amène une alternative.
Tu ramènes une alternative de prendre un crédit sur 10 ans.
Pour moins cher que rouler au gasoil, ils vont rouler à l'hydrogène.
Moi, tu sais ce qui me tue dans ce truc-là, c'est que t'as des personnes comme Aurore qui ont, avec 3500 balles, ils n'arrivent pas à nourrir leurs gamins convenablement et à vivre convenablement. Et Aurore, très certainement, a 90% de chances d'avoir, avoir une voiture, un vieux véhicule essence ou diesel. Et là, ils vont lui dire dans 2 ou 3 ans, non, ma cocotte, il va falloir que tu changes de voiture. Il va falloir que tu changes de bagnole. Et tu vois, c'est ça qui est complètement, ils sont complètement hors sol et à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils t'imposent des choses et ils te mettent une pression supplémentaire au ménage et ils te donnent pas de solution alternative.
Moi, quand je change de véhicule, je fais un coup au coût du jour des carburants, coût d'achat du véhicule sur 5 ans. Eh ben, tu fais comme tu veux.
Fais ton calcul.
Avec le kilométrage que je fais aujourd'hui.
Le calcul est rapide.
À part le gasoil, en véhicule d'occasion, à part le gasoil est le moins cher. Demain matin, c'est l'hydrogène le moins cher, on roulera.
On aura en hydrogène.
Une petite dernière, Paul.
Oui, quelle grande championne vient d'annoncer qu'elle allait reprendre?
Serena Williams.
Serena. Très bonne réponse.
Le Queen.
Voilà, vous allez voir la très belle une de
son dernier tournoi.
Oui, l'US Open.
Elle a annoncé en même temps qu'elle y allait et qu'elle arrêtait.
C'est exactement ça. Et parmi les raisons invoqué par la championne, il y a le développement de ses business, avoir une nouvelle vie, mais aussi quoi?
Son enfant. Plus personnel.
Son fils et sa fille.
Le fait de passer du temps avec sa fille.
Oui. Voilà. Et surtout le fait de pouvoir avoir un deuxième enfant dans un environnement plus serein. Et pour elle, et pour l'enfant, qu'elle n'ait pas à reprendre un entraînement.
C'est des machines.
Un mois après avoir un bébé, c'est des machines.
Elle est Vénus. C'est la plus grande championne de tennis du monde. Et avec son père les a formatés. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Will Smith. Ils ont été formatés depuis qu'ils étaient jeunes à être des championnes et c'était un truc de dingue. Et franchement, chapeau, quoi.
Chapeau.
Queen Serena, magnifique une de l'équipe. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, faut-il faire payer l'accès aux parcs nationaux, aux massifs forestiers?
Rappelle Aurore et demande-lui ça. Tu lui dis, t'as vu Aurore, l'une des rares choses qui te reste gratuite en France, c'est d'aller te balader en montagne, on va te la faire payer.
Surpopulation touristique, est-ce qu'aujourd'hui on doit faire payer pour éviter la dégradation justement de la nature? On en parle avec vous au 32-16, c'est le GG7 et Match qui arrive.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.